Un homme mort à Boissezon. D'après le dossier de procédure criminelle de la Sénéchaussée de Castres, daté de 1754, et coté B296 aux archives départementales du Tarn. Deuxième épisode. Premiers interrogatoires. Les 15 et 16 novembre, le procureur du roi établit un brief intendit, liste des questions à poser aux témoins ou aux suspects s'il s'en trouve, qu'il propose au sénéchal. Le lieutenant criminel doit interroger 6 habitants de Boissezon qui ont été assignés comme témoins. La première question logiquement porte sur la présentation du témoin, prénom, nom, qualité, âge et domicile. Avant la présentation de la convocation et le serment, la main mise sur les saints évangiles. Suit une deuxième question, rituelle. Est-il allié, serviteur ou domestique de l'une des parties? Ici, faute de suspect, il s'agit du procureur du roi et du mort. Puis, ce document lui est lu. À chacun, on demandera s'il sait. Premièrement, que Germain Betsos a été tué d'un coup d'arme à feu, et par qui? S'il suspecte quelqu'un. Deuxièmement, si une personne mal intentionnée est allée l'attendre sur le chemin. Troisièmement, si Betsos n'avait aucun ennemi secret, s'il y a eu bruit, querelle ou dispute à Boissezon la veille de la mort. Quatrièmement, que quelqu'un voulait l'assassiner ou s'il craignait d'être assassiné et s'il a nommé des personnes qui l'auraient menacé. Cinquièmement, si Betsos est allé à Saint-Salvi le 13, chez qui et qui il a vu s'il n'y a pas eu de querelle. Sixièmement, si Betsos craignait d'être assassiné, ne demanda pas un bâton aux personnes avec qui il venait de boire pour se défendre en chemin, et s'il ne leur a pas donné de nom. Septièmement, que, il y a environ 8 jours, quelque mal intentionné fut heurté à heure indue à la porte de Germain Betsos, et que, s'étant mis à la fenêtre, on lui tira un coup de fusil. Et qui a tiré? Ou qui en soupçonne? Certaines questions semblent découler des interrogatoires même des témoins, ou de conversations à bâton rompu entendues auparavant. En effet, on apprend rapidement que, quelques jours avant le crime, quelqu'un avait, dans la nuit, tiré un coup de fusil ou de pistolet dans la porte de Betsos. Lui-même a raconté à plusieurs personnes que les sieurs Poppy, Dresser et François Bernard étaient venus dans sa maison, où ils avaient fait beaucoup de carillons et dit à sa femme de le faire venir à Boissezon pour lui parler. Les Poppy père et fils auraient ajouté que, s'il ne faisait pas ce qu'il voulait, qui était de rétracter par acte l'audition qu'il avait faite chez M. de Boissezon, subdélégué, au sujet d'une requête présentée à Mgr le gouverneur de la province. Et, encore, chez le nommé Gabaud, qu'il ne mourrait d'autre main que de la leur s'il ne rétractait son audition par un acte. De ce fait, Germain Betsos se pensait en danger, au point de demander pour se défendre quelques bâtons pour s'en aller à sa maison le mercredi soir en quittant Boissezon où il était allé les rencontrer. Il a également conseillé à Joseph Ménadier, tisserand chez qui son fils était en apprentissage, de ne pas sortir la nuit. Il est d'ailleurs de notoriété publique que les Poppy père et fils ne marchent presque jamais sans porter des pistolets de poche, et le père a été vu l'hiver dernier en porté dans son manchon. Quelques questions supplémentaires. D'autres questions sont ajoutées le 16 novembre au brief intendit. Huitièmement, si le sieur Poppy, père, n'est pas allé à Fialessuche l'après-midi de la veille avec les sieurs Bernard et Dresser, s'il est allé chez Betsos et a parlé d'un ton colère à la femme de Betsos et lui dit de dire audit Betsos, son mari, de l'aller trouver au lieu de Boissezon ce soir-là. Neuvièmement, si Betsos est allé à Boissezon le 13 au soir, s'il a rejoint Poppy, s'ils ont parlé ensemble et si Poppy ne leur parut animé de colère et ne menaça le dit Betsos qu'il ne mourrait que de sa main. Dixièmement, si Poppy a été vu le soir du 13 prendre le chemin de Fialessuche, s'il était à pied ou à cheval, quelles armes il portait, avec qui il était, et s'il n'était pas allé attendre Betsos. Onzièmement, enfin, s'ils savent si Poppy est l'auteur du meurtre. Quand un témoin joue les experts. Jean Allary, 28 ans, fournisseur des boucheries de Boissezon, a vu le mercredi soir, à environ 5 heures, Germain Betsos parler avec Poppy et un certain Raisin près du pont Rodier, mais n'entendit pas la conversation. Puis Betsos lui cria de l'attendre et lui suggéra d'aller boire une bouteille de vin ensemble, car il avait quelque chose à lui dire et qu'on voulait le tuer. Alary lui aurait répondu « Va, tu es un fou, je n'ai pas le temps d'aller boire » et refusa également de le rejoindre plus tard. Le lendemain matin, c'est Boudou, commis au contrôle de Boissezon, qui vint heurter à sa porte vers 7 heures, qui lui apprit l'assassinat de Betsos. Avec d'autres personnes, il alla sur les lieux et y accourut si vite qu'il ne fit pas même tenir les jarretières de ses bas. Outre le corps, il ajoute avoir vu un petit os ensanglanté qui était dans le dit champ à environ 2 ou 3 pas du mort. Et en s'en retournant chez lui, il remarquait qu'il y avait auprès du cadavre, à la distance d'environ 3 ou 4 empans, des marques et empreintes sur la terre, des fers d'un cheval, lesquelles marques étaient fort fraîches et fort gravées dans les terres, ce qui indiquait qu'il descendait venant du côté de Boissezon. Il en a encore retrouvé dans la colline, et elle n'allait pas plus loin que là où était le corps. Il insiste sur le fait que les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait tué Betsos, que ce n'était pas un homme de mauvaise réputation et qu'il ne faisait de mal à personne. Il est au courant, par ouï dire, des différentes visites des uns aux autres, mais pas davantage. Continuation des interrogatoires. Interrogé le 18, François Rouche, greffier consulaire, avait rencontré Betsos le 13, qui lui aurait dit « Écoutez, je veux vous avertir que nous sommes en danger de perdre la vie tous deux. Moi, à cause que j'ai rendu mon audition devant M. de Boissezon, par ordre du commandant de la province, contre les sieurs Poppy, père et fils, et vous, pour avoir écrit, ainsi qu'il vous soupçonne. » Il lui a raconté le coup de fusil dans la porte et que le père l'avait menacé de le tuer, et qu'il fallait prévenir Jean-Pierre Goutte, également en danger parce qu'il était l'auteur du placé présenté au commandant de la province. Le soir, en rentrant chez lui vers 5 heures, Rouge trouva sa femme inquiète. « J'étais en peine sur votre compte parce que Jean-Pierre Goutte vient de me dire de vous avertir de ne point sortir la nuit parce qu'on vous guette tous trois pour vous tuer. » Jean-Pierre Boudou, préposé à la recette du contrôle, avait eu une dispute avec Poppy une quinzaine de jours plus tôt, celui-ci l'accusant d'avoir montré quelques registres, pendant laquelle il tira un pistolet de sa poche et le lui montra. Jean-Pierre Dresser, foulonneur d'étoffe, allé le mercredi chez Jean Bernard, son fermier à Fialsuche, y trouva Poppy père avec François Bernard et Jean Terral, qui cherchaient des papiers dans la maison du dit Bernard. En fin de journée, il se trouvait à boire avec eux à Boissezon lorsque Betsos vint trouver Poppy. Ils se mirent tous les 5 à table et trinquèrent ensemble. Jacques Bouissière de Fialsuche raconte que, quelques jours auparavant, vers minuit, sa femme, qui faisait téter leur enfant, vint le trouver dans son lit et tremblante et lui dit qu'elle avait entendu tirer un coup de fusil ou de pistolet dans le masage. Il avait ouï dire que Poppy, Bernard et Dresser étaient, la veille de l'assassinat, chez Jean Bernard, où Poppy cherchait des papiers. Décision du procureur du roi. Le 20 novembre, au vu des constats et interrogatoires, Jean-Pierre Roux, procureur du roi, considère qu'il y a lieu de décréter de prise de corps le sieur Poppy, père, notaire de Boissezon, ainsi que son fils. Le lieutenant criminel ordonne que le notaire sera assigné à comparaître sous huitaine et que François Bernard et Jean-Pierre Dresser seront entendus comme témoins. Le même jour, Rose Barthès, veuve de Germain Betsos, dépose plainte afin de se porter partie civile et fournir son propre brief intendit. Elle constitue pour son procureur Maître Alba, qui l'assiste. Une continuation de brief intendit est rédigée le 22 par Roux. Le lieutenant criminel a une liste de nouveaux témoins à interroger. Savent-il que Oulès, procureur du Sénéchal, est allé voir la veuve Betsos pour l'engager, par menace, prière ou promesse, à se rendre partie civile? Si on lui a donné de l'argent? Et si c'était pour le sieur Poppy qu'il agissait, ou s'il montait le cheval de Poppy? Si, la veille ou le jour de leur assignation, Oulès n'a été leur parler chez eux au sujet de leur déposition, pour qu'ils la rendissent à sa fantaisie, tantôt les prières et tantôt les menaces. Si Oulès ne montait alors le cheval de Poppy ? Pour la femme Gabaud, si elle n'a entendu dire, dans son auberge, qui était suspecté de l'assassinat ? Et si, quelques jours avant qu'il fût commis, les Poppy ne dirent que Betsos leur avait fait quelque chose et qu'il le leur paierait ? Nouveaux interrogatoires. Cette dernière, Catherine Donce, 72 ans, femme d'André Gabaud, hôte de Boissezon, a ouï dire, depuis le meurtre, que Betsos était passé la veille chez Ménadier, où il avait un fils en apprentissage, et qu'en partant il a demandé un bâton. Pierre Sicard, 48 ans, marchand de Cordelas, rencontra dimanche dernier sur la place Pierre Oulès, beau-frère de Germain Betsos, qui lui a parlé du coup de fusil dans la porte. Ni lui, ni Jean Bernadou, négociant, et Jean Ménadier, travailleur de terre, interrogé le 24, n'apportent d'autres éléments à l'affaire. Le 30 novembre, Antoine Poppy, notaire de Boissezon, est assigné à comparaître sous huitaine. Et le 1er décembre, ce sont François Bernard et Jean-Pierre Dresser qui reçoivent la même assignation. Épilogue en eau de boudin. Et c'est ainsi que s'arrête notre enquête. Car les pièces du dossier, numérotées, s'interrompent au numéro 18 pour reprendre au numéro 80. En mai 1755. Ce cahier résume les derniers épisodes connus. Poppy, Bernard et Dresser doivent être confrontés aux témoins, tandis que la veuve est partie civile. Le 11 février, ils demandent leur relax et que les fausses accusations contre eux soient punies. Le lieutenant criminel, vu toutes les pièces, y compris les dépositions de témoins entre décembre et février, ordonne qu'il sera procédé à la fulmination du chef monitoire déjà publié, les témoins ouïs et confrontés, si besoin, aux trois accusés. Il ordonne, par ailleurs, que les termes indécents et injurieux insérés contre ledit procureur du roi dans la requête présentée au nom du dit Poppy et autres, le 19 février, seront rayés et bâtonnés par le greffier, et que Oulès, procureur du Sénéchal, qui a écrit et signé cette requête, sera tenu de déclarer au greffe que c'est témérairement et inconsidéramment qu'il l'a fait, de quoi il se repent et en fait ses excuses au dit procureur du roi. En outre, il aura interdiction d'exercer pendant 15 jours. Mais nous n'aurons pas la joie de lire ces injures, les feuillets ayant été retirés. Que deviennent les accusés ? A-t-on trouvé et jugé le coupable ? Nous n'en savons rien, mais cela semble peu probable.